Alors, bon, ben tout le monde vous a souhaité bonne fête des mères pour les femmes qui sont ici ce matin. Ben c'est à mon tour de le faire, évidemment. Mais en fait, cette journée-là aussi, il y a la fête des mères, mais tu sais, on a comme tout un... Il y a comme tout un bagage autour de ce mot-là, hein, le mot « mère », la fête des mamans. C'est une célébration, hein, c'est pour nos mères à nous... parce que, bon, on est toutes nées quelque part, là. il y a une mère quelque part. Des fois, il y a certaines mères avec qui on a plus une meilleure relation, puis on est content de pouvoir célébrer cette fête-là avec elles. D'autres que c'est un petit peu plus tourmenté, peut-être, autour de leur relation avec leur maman. Puis aussi, il y a des défis au niveau de la maternité, hein, on va se le dire. C'est une fête qui peut être une journée de reconnaissance, vraiment quelque chose qui fait du bien, mais ça peut être aussi une journée où il y a certaines angoisses qui peuvent se vivre autour de cette journée-là qui approche lorsqu'on est dans la semaine où la fête des mères arrive. Je pense que même, on l'a vu dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez entendu parler cette semaine, des enseignants là, qui ont souhaité faire... une différence là dans la célébration de la fête des parents au lieu de la fête des mères et tout ça, ça l'a fait parler vraiment beaucoup. Mais en réalité, je pense que derrière chaque chose, chaque décision qui est prise, souvent il y a un humain qui est là. Il y a soit un désir de compassion envers peut-être des enfants qui vivent des choses difficiles auprès de leur famille puis de leur maman et tout ça. Je pense qu'il y a des réflexions comme ça qu'on ne connaît pas en arrière de chaque chose. Mais tout ça pour dire que la fête des mères, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, ça ressort de plusieurs, soit cultures dans des pays différents où c'était célébré de manière différente. Il y avait la tradition grecque, il y a eu la tradition chrétienne. Il y a également eu en France, dans les débuts des années 1900, la fête qui était pour les femmes qui avaient eu de familles nombreuses. Et finalement, ben, ça s'est dessiné avec la fête des mères un petit peu, comme je dis, de manière différente. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas une fête commerciale, en fait, hein, cette fête-là. Alors, parfois, c'est ça. Il y a des choses qui peuvent être difficiles pour certains, puis d'autres où c'est une journée vraiment, où c'est une célébration, puis on est heureux de la vivre. Je vous dis tout ça, en fait, ce matin, parce que je vais commencer avec... Ça sera peut-être pas... ça n'aura pas l'air si joyeux que ça ce matin comme sujet, mais en arrière de tout, Dieu rend et fortifie, il rend la joie sur toute situation, alors que l'humain n'est pas attiré vers les situations souffrantes, hein, on s'entend. L'être humain, souvent, va fuir la souffrance. Puis c'est tout à fait normal, je connais pas beaucoup de monde, en tout cas, moi j'en connais même pas, je pense, qui vont avoir le goût de vivre un deuil, de vivre une confrontation difficile dans leur famille, ou peu importe, hein, des situations qui apportent une souffrance, une angoisse quelconque. En tant qu'être humain, on veut pas vivre ça. Et moi, en fait, je pense qu'on utilise les moyens qu'on a, hein, pour être capable de faire face à des situations qui vont être douloureuses. Et... personnellement, moi, c'est cette semaine-là où c'est la fête des mères, je le vis d'une manière différente aussi. Cette semaine, c'était l'anniversaire de naissance de mon frère qui est décédé en 2017. Donc, vous comprendrez que ma maman, elle vit cette journée-là et toute la semaine en la voyant, parce que dans le fond, c'est le 11 mai, donc ça a toujours été la journée de sa fête, juste avant la fête des mères. Alors qu'aujourd'hui, ça se vit de manière un petit peu plus déchirante, je dirais, pour elle, puis pour toute la famille. Ben, ça fait en sorte que moi, je pense beaucoup à ces personnes-là qui peuvent vivre un défi au niveau de la maternité, au niveau de leur relation avec leur mère, comme je l'exprimais tantôt, ou bien une mère qui, elle, vit aussi des défis avec sa famille, avec ses enfants ou avec la perte d'un enfant. Donc, il y a énormément de situations autour de ça, puis on a chacun notre histoire. Hein? Alors, on a des histoires, ça c'est l'histoire que je vous partage de ma famille à moi, de ma mère, mais vous avez chacune une histoire, pas nécessairement juste reliée à la fête des mères. Hein? On a tous une histoire en tant que nous, êtres humains. Et puis, dans toutes ces histoires-là, je crois qu'il arrive un moment donné où on a vécu quelque chose où on a besoin d'une consolation, où on a besoin d'être fortifié pour avancer, pour être restauré aussi, puis qu'on ait la force de Dieu pour passer à travers ça, mais aussi pour continuer notre chemin, puis toujours dans l'espoir que Dieu nous entend, dans l'espoir qu'il nous comprend et de le voir agir aussi. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Donc, j'ouvre ça sur l'histoire de la résurrection de Lazare. Donc, être consolé et fortifié par Jésus, c'est là où ce matin, je veux qu'on puisse laisser notre cœur ouvert à ce que Dieu vienne s'adresser à nous, finalement. Je vous raconte les grandes lignes de la résurrection que Lazare a vécue, en fait, par la gloire de Dieu, hein, par Jésus. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, ou si ça fait trop longtemps que vous l'avez entendue, en fait, c'est deux sœurs, Marie et Marthe, qui sont les sœurs de Lazare. Et Lazare tombe malade, puis à ce moment-là, elles envoient un messager à Jésus qui était rendu à l'est du Jourdain, donc à peu près à une journée de marche, environ 48 kilomètres, pour le mettre en kilomètres, de l'endroit où Béthanie est le village où Marthe, Marie et Lazare vivent. Et puis, elles envoient un messager tout de suite et disent à Jésus que Lazare est très, très malade puis qu'il va mourir. Il est vraiment très malade. Et puis, Marie et Marthe, selon leur personnalité à chacune d'elles, vont rencontrer Jésus lorsqu'il revient. Mais il revient vraiment très tard. Il revient 4 jours plus tard où elles ont fait envoyer le messager. Alors, du moment où le messager part pour adresser cette demande-là peut-être à Jésus pour dire que Lazare était malade. 4 jours plus tard, il revient et les deux sœurs l'attendent de pied ferme pour lui dire « Mais t'étais où, tu sais? On avait besoin de toi. » Et finalement, ça se termine que Jésus fait ressusciter Lazare. Cette histoire-là, en fait, hein, c'est un miracle plus que spectaculaire, hein, on va se le dire. Là. C'est comme l'apogée du ministère de Jésus. C'est le dernier miracle que Jésus a pu faire avant d'être amené à la croix, d'être pris par les Juifs. Et les Juifs ont utilisé cette situation-là pour justement le prendre en flagrant délit. Et ils n'attendaient juste que Jésus arrive et fasse encore un coup, selon eux. Mais finalement, il leur en a mis plein les yeux, hein, parce qu'il a même fait ressusciter un mort qui était mort depuis 4 jours. Ça vous donne une idée. Fait qu'il ne l'a pas pris à la légère, hein, Jésus qui savait tout. Alors, on va regarder l'histoire, quelques versets à la fois, dans le sens de revenir à Jésus, puis qu'est-ce qu'il est pour nous. En fait, Jésus entend chacune des situations qu'on vit. Regardons dans Jean 11, je vous laisse lire tout le chapitre de Jean 11 pour savoir l'histoire au complet. Moi, je vais juste retirer certains versets. Alors, c'est de 1 à 44. Donc, au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point dans la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On s'en va au verset 5 ensuite. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Alors, on a deux sœurs qui envoient un messager, hein, qui prennent la peine de trouver quelqu'un pour se rendre aussi loin que ça, à pied, pour donner un message à Jésus. J'imagine bien qu'à ce moment-là, là, les sœurs se sont dit, ben écoute, on va envoyer le messager, là. Puis ils vont revenir avec Jésus, tu sais, parce que c'est une journée y aller, une journée revenir, avec espoir, puis avec ben de la prière, là, on devrait être bon pour que Jésus revienne avant que Lazare y meure. Alors, l'attente des sœurs était quand même, elle n'est pas mentionnée directement, mais on croit que si elles ont envoyé quelqu'un à Jésus, c'était pour avoir le désir qu'il revienne. Hein? Est-ce que vous avez l'impression des fois que Jésus, quand on lui adresse des demandes, quand on lui parle, ben qu'il ne nous entend pas nécessairement? Ici, quand les sœurs ont revu le messager, j'imagine bien qu'ils ont dit, « Mais t'as pas, t'es-tu rendu? T'as-tu pogné le bon chemin? Jésus, tu te rappelles, c'est qui, là, lui, là, qui a guéri l'aveugle? T'sais, Jésus, là, ben, tu l'as-tu vu? Tu as dit quoi? T'sais? Il n'est pas avec toi? » Ben non, il n'était pas revenu encore. Il les laissait attendre, en fait, pendant ce temps-là. Puis, je sais pas vous autres, là, mais moi, là... J'ai des délais dans la vie, moi. Ouais, ça arrive que je prie, puis que, je sais pas, c'est pas tout le temps dit, là, je te donne 48 heures, mais je pense qu'ici, là, il sait, là, que j'y donne des délais, là. Ben vous autres, peut-être pas, mais en tout cas, moi, ça arrive, ça arrive. Puis des fois, je trouve ça bien long d'avoir des réponses de Dieu. Tu sais, je trouve ça long. Puis je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas revenu avec le messager? Oui, c'est ça. Bien, c'est ce qui est arrivé avec les sœurs, probablement. Et pendant ce temps-là, bien, Jésus leur avait quand même donné une certaine consolation, un certain réconfort, en disant un message pour le messager que cette maladie allait être à la gloire de Dieu. Elles n'ont peut-être pas compris, comme parfois on ne comprend pas non plus qu'est-ce que Dieu nous dit quand on prie. Poursuivons au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On s'en va au verset 32, parce que Marie arrive. Alors, Marie, lorsqu'elle fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les deux sœurs ont le même discours. Elle s'attendait à ce que Jésus vienne pendant que Lazare était encore en vie. Même s'il nous aime, Jésus le dit, il aimait Lazare, il aimait Marie, il aimait Marthe. Mais même, il nous aime nous autres aussi. Et malgré ça, il nous fait attendre aussi. Et il ne répond pas toujours comment on veut non plus. Et quand en plus d'y mettre des délais... On lui donne une recette. Ah non, peut-être pas vous autres, oui. Moi, en tout cas, j'y en donne. Je sais pas vous autres, moi, je suis pas gros... ouais, c'est ça. Les burgers, ça j'aime ça, là, mais moi, je suis du type veggie burger. Là. Je sais qu'il y en a qui vont faire comme... Ah, bon, ouais, mais j'ai quasiment tout essayé dans les fast-foods pour voir lequel qui marchait, qui avait de l'allure. Ou... Mais celui-là que je préfère, c'est chez Harvey's. Puis c'est pas à cause de la boulette. C'est du monde qui ont faim, hein. C'est à cause que je peux mettre ce que je veux dedans. Je sais pas si vous êtes déjà allé là, mais moi, j'aime vraiment les cornichons. Je peux mettre des cornichons comme j'en veux. Je peux décider d'avoir cette sauce-là, pas cette sauce-là, puis de mettre ce que je veux dedans. Mais c'est pas ça la vie avec Jésus. Non, c'est pas comme chez Harvey's. On peut pas vraiment décider ce qu'on met dedans. T'sais. En fait, il répond de manière inattendue. Fait que si je voulais ça, ça se pourrait que dans mon burger, il y ait de la tapisserie au lieu des cornichons. Ça n'a pas rapport, là. C'est complètement deux choses. Mais non, en fait, il répond de manière inattendue, mais inimaginable dans notre sens, pour notre bien à nous. Alors, il ne nous fera pas manger de tapisserie. En fait, la résurrection, elle n'aurait jamais été possible. Et donc, le plan de Dieu n'aurait jamais été possible si Jésus avait écouté les délais des deux sœurs. Go, 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 viens-t'en avec le messager, il faut que tu le guérisses. Ben non, parce que Lazare, là, il n'aurait probablement pas été encore mort, ou s'il avait été mort, ça ne ferait pas très longtemps, fait que ça serait revenu un peu à la même résurrection qu'il avait faite à la fille de Jaïrus, alors qu'on n'est pas là, là. Là, on est ailleurs. Tantôt, on va regarder un peu le contexte de la résurrection, OK? Mais peut-être que toi, dans ta vie, quand je te parle de consolation, c'est pas quelque chose qui te touche parce que tu n'es pas du genre à vivre la tristesse pour des choses. Tu sais, moi, je suis une mélancolique. Là. Moi, je peux vraiment être triste dans la vie. S'il y a de quoi qui se passe, je ne serai probablement pas en colère, je vais être triste. Mais, tu sais, il y a des hommes dans cette salle-là, il n'y a pas juste la fête des mères aujourd'hui. Là. Je le sais que souvent, les réactions sont différentes. Bien, en fait, il se peut fortement que tu aies besoin quand même de consolation, même si tu vis une déception par rapport à toi-même. Ou peut-être que tu vis aussi des rêves que tu attends donc bien qui arrivent. Tu as peut-être des objectifs dans la vie, puis que tu dis, bien, voyons, c'est parce qu'il faudrait peut-être que ça bouge. Pourquoi qu'il arrive ça? Pourquoi qu'il arrive ci? Ça n'arrive pas. On a des délais qu'on veut, hein? Peut-être que dans une situation où tantôt Marie-Hélène a suggéré que les femmes, ils sont souvent plus inquiètes, mais en effet, on a peut-être plus la switch à on, si je peux dire, sur l'inquiétude, d'avoir un peu plus l'inquiétude qui monte rapidement. Peut-être que c'est dans ton couple que tu vis peut-être une séparation, peut-être que tu vis quelque chose avec tes enfants, peut-être que tu as des attentes en tant que, justement, en tant que maman envers tes enfants dont tu vois tellement de potentiel. Mais sur toutes ces situations-là, il y a une consolation. Jésus, il veut te donner une consolation. C'est lui qui est maître de ce qui se passe. Hein? C'est lui qui sait la manière puis le moment où est-ce qu'il va répondre et de quelle manière il va le faire. Dans 1 Jean 5, il nous est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » C'est la vérité. Il nous écoute, il nous entend. Et il ne fait pas juste nous entendre, il nous comprend aussi. Ben oui, Jésus, il comprend ta situation, individuellement, la tienne. Il n'y a peut-être pas de l'air, hein, parce que si on regarde dans le verset 14, là, dans l'histoire, encore une fois, de la résurrection de Lazare. Alors Jésus leur dit ouvertement aux disciples, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » OK, t'as peur, là. Je me réjouis. Moi, j'ai Marc et Marie, que c'est mes amis, là, puis Lazare, que c'est mon ami aussi. Là, mon ami vient de décéder, puis mes deux amis, Marc et Marie, ils souffrent, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un deuil dans votre vie, là. Ça vient des tripes. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, que tu te trouves les yeux et tu te dis, « OK, t'as peur, là, je vais me pincer. Là. C'est-tu vrai pour vrai qu'il n'est plus là? » Bien, c'est ce qu'ils vivent. Ils sont en train de vivre une douleur épouvantable. Ils se réjouissent. C'est ça qui est écrit. Mais voyons, il nous comprend-tu? Ben oui, il nous comprend. La seule raison pour laquelle il dit ça ici, c'est qu'il veut apporter un nouveau degré dans la foi de ceux qui vont voir son action, qui vont voir la résurrection de Lazare. La seule chose qui explique sa joie ici, c'est ça. Ce n'est pas du tout en lien avec ce que les autres vivent présentement. C'est ce qu'ils vont vivre plus tard. C'est ce qui s'en vient. C'est ce que lui, il sait qui va être accompli. À chaque deuil que j'ai vécu, puis j'ai vécu un deuil à 16 ans de mon beau-père qui m'avait élevé, celui de mon frère en 2017, puis celui de mon père que je vous ai parlé la dernière fois du mois d'octobre dernier. Mettons que c'est les plus importants, là, il y a tout le temps des personnes autour de nous quand même, mais à chaque fois, ben là oui, là, ça faisait mal, mais à chacune de ces fois-là, Dieu faisait quelque chose de vraiment particulier dans ma vie. Je n'étais pas croyante, je ne connaissais pas Dieu, ma famille n'était pas croyante non plus, n'était pas chrétien, mais peut-être croyant d'un univers quelconque, là, lorsque mon beau-père est décédé quand j'avais 16 ans. Mais à ce moment-là dans ma vie, il y a un tournant qui s'est pris où j'ai décidé de faire vraiment un revirement de situation. Puis j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de plus haut que moi qui m'adressait, là. C'est qui me faisait virer de bord. Je suis partie de où est-ce que je restais. J'ai vraiment viré sur un dixaine, comme on dit. J'ai changé ma vie bout pour bout, vraiment. Maintenant, je sais que Dieu est en arrière de ça. Au décès de mon frère, c'est la première fois que je prenais la parole devant, il y avait comme 500 personnes à peu près ici. C'est la première fois que je le faisais, puis j'étais en plein transfert de vie là, dans mon nouveau carrière. En tout cas, j'avais laissé mon emploi, puis je m'en allais dans, je ne savais pas trop quoi, Dieu m'avait indiqué de faire ce move-là, puis je sautais comme en bungee. Là. Je suis dans les airs, et je sais qu'il y a une corde qui me retient, mais il faudrait peut-être que je la sente, parce que je la sens pas. À ce moment-là, c'était là, puis mon frère est décédé dans ces moments-là, puis j'ai pris ce temps d'arrêt-là. Et mon père, récemment, puis la première journée où j'ai apporté le message ici, c'était 7 jours avant que mon père décède, qui était très, très, très malade. Comprenez-vous que dans chacun des deuils, puis là, j'ai vraiment juste résumé en gros, 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 là, ce que Dieu a fait à travers tout ça, parce qu'il a fait donc bien plus d'affaires que ça. Mais Dieu a utilisé chacune de ces périodes très difficiles pour moi pour m'amener à quelque part. Je suis pas rendue. J'avance un pas après l'autre, puis je me dis, ben, c'est correct, je suis là. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il sait vraiment ce qu'il fait. Puis, j'avais même pas réalisé ce matin, en fait, ce qui est un peu comique, parce que j'ai parlé avec ma maman la journée de mercredi. Et je lui dis, ben c'est moi qui fais le message, oui, dimanche, tout ça, parce que là, bon, on parlait d'un brunch et tout, hein, c'est la fête des mères. Elle me dit, tu parles de quoi? Je lui dis, je parle de la consolation de Jésus, puis de comment il peut nous fortifier à travers des épreuves. Tout ça, elle dit, ah oui, elle utilise-tu des illustrations, tout ça, parce qu'elle était venue à un des messages que j'ai fait, fait qu'elle a comme analysé tout ça. Fait que j'ai dit, ah oui, c'est l'histoire de Lazare qui a été ressuscité. Là, je parle de ses deux sœurs, tout ça. À part à rire. Ben, je dis, pourquoi tu ris? Ouais, la résurrection, ma mère n'est pas très... ouais, ça se peut. C'est vrai que c'est drôle. Ben non. Elle me dit, c'est drôle, hein? Elle dit, tu parles vraiment de ça, là, pas vrai, là. Genre aujourd'hui, on était le 11 mai, la journée de la fête à mon frère. Elle dit, parce que c'est comique, hein? Ah oui, maman, je viens de réaliser. J'avais pas réalisé du tout que ce message-là, il était deux sœurs qui perdaient leur frère. pas en tout. Mais c'est pas grave, c'était juste, je me dis, Dieu, il travaille à travers des choses qu'on n'a aucune idée. Ma mère qui réalise ça, ça me fait réaliser des choses encore plus, je pense. Regardons ce qui se passe aussi plus loin dans les versets de 33 à 35. Donc, on revient. Jésus, voyant pleurer, là, on parle ici de Marie et Marthe, OK? Alors, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Il parlait du corps de Lazare. « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Jésus nous comprend. Souvent, on va lire ce passage-là, puis on va voir comme juste que Jésus pleure, qu'il y a une vive compassion, une sympathie profonde pour ses amis. Puis oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Puis c'est pour ça qu'on sait aussi qu'il nous comprend. Mais il y a aussi toute la partie où est-ce qu'il frémit, puis qu'il est ému. Dans d'autres versions, c'est « il s'émut ». Ça veut dire être troublé. Ça veut dire être pris d'indignation de frémir comme il est. C'est un mot, ça vient du grec. En fait, lorsqu'il signifie l'indignation, la colère et l'irritation, c'est en lien avec le fait que Jésus voit combien est-ce que le péché donne une conséquence sur le monde dans lequel on vit. Et ce péché-là, la conséquence qu'on vit souvent va aller avec la souffrance. Et c'est ça aussi qui vient faire en sorte que Jésus... Il frémit, puis par deux fois, quand il se rend au tombeau aussi, il vit la même chose. C'est comme, oh, je voudrais donc pouvoir les brasser. On va dire ça de même. C'est comme, allumez, là, Jésus est devant vous, là, c'est pas grave, là, s'il est mort. C'est, je vais faire quelque chose pareil, tu sais, il n'est pas trop tard. En fait, ce qu'il a fait, hein, c'est qu'il a pris la souffrance de chacun de nous à la croix, Jésus. Et il a pris individuellement ta situation à toi, puis il l'a portée. Alors, quand il voit combien est-ce qu'on est dans la souffrance, puis combien est-ce qu'on a mal, il le ressent avec nous. Il a ressenti chacune de ces souffrances-là que toi, présentement, tu es en train de te dire, « Mais comment je vais passer à travers? » Puis on va-tu finir par s'en sortir? Puis sur ce problème-là que je vis, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger? La souffrance vient à cause du péché, mais la consolation vient à cause de la croix. Alors, ce mot-là, en fait, qui est du grec parakaleo, veut dire exactement fortifié par la consolation. C'est le fait de recevoir une consolation sur ta vie, sur ton cœur. C'est d'être réconforté. Marie-Hélène l'a dit ce matin, j'en reviens pas comment est-ce qu'on s'est pas parlé puis qu'on avait les mêmes idées en tête, hein? On sait pas du tout qui gère ici. C'est pas moi. Alors qu'il nous réconforte. Il vient nous envelopper, qui nous renforce dans ce qu'on vit par sa consolation. C'est ça que ça veut dire. C'est dans le même verset de Matthieu 5, au verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est le même mot que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une promesse, qu'il y a une victoire qui est attendue sur cette consolation-là, sur cette souffrance-là qu'on vit quand on en vit une, parce que c'est pas le cas qu'on en vit toujours. Une chance. Il y a des moments où ça fait du bien puis qu'on peut être un petit peu plus en douceur sur notre vie. Retournons maintenant à comment est-ce que Jésus, maintenant, il agit. Parce que oui, il nous entend, il nous comprend, mais il agit aussi. C'est pas juste du néant, là. Oui, tu nous entends, tu nous comprends, mais c'est très, très abstrait des fois, là. Mais non, parce que du concret, il y en a, et c'est quand qu'il agit. Et au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 21, on sent quoi? On sent que, elle a une certaine limite à la puissance de Jésus, hein? Oui, je sais que tu peux faire quelque chose quand il était vivant, là. Mais là, il est mort. Là, je suis désolée. C'est plus possible. Fini. C'est parce que moi, humainement, je vois qu'il n'est plus. Ben, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, là. Au verset 22, on voit qu'elle se rattrape un peu. Je sais que Dieu va t'accorder ce que tu vas lui demander. OK. Mais hop, verset 24, c'est comme si elle ne saisit pas toute sa puissance, là. Hein? Elle déclare ce qu'elle connaît. Elle sait qu'il va ressusciter au dernier jour, comme une espérance ici, mais elle sait qu'il peut faire quelque chose pour l'aider, peut-être de l'apaiser, peut-être de lui faire du bien. Mais jusque où? Est-ce qu'elle pense vraiment qu'il peut redonner la vie? Voilà, certaine. Continuons. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Verset 27, on voit qu'en présence de Jésus, elle est affermie dans sa foi. Elle voit que c'est comme si sa foi, elle grandit. On en a besoin d'être dans sa présence quand on vit ça. On a besoin de dire à Dieu, viens me fortifier, viens augmenter ma foi. Parce que j'y arrive juste vraiment pas, puis je doute solide. On a besoin qu'il vienne nous affermir. Verset 39, Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort, qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Est encore des montagnes russes, hein? Le verset 39, c'est sûr que Jésus n'avait pas été explicite sur le fait qu'il allait ressusciter le corps là, de la personne, OK? Il ne l'a pas dit comme ça, là. Mais peut-être qu'elle a se dit, oui, je sais, là, il veut peut-être juste voir, es-tu vraiment mort? Tu sais, elle s'est su, ça, hein, que Jésus, que lorsqu'on n'a pas vu quelqu'un qui n'est plus vivant, bien que des fois, on a l'impression qu'il l'est encore, tu sais. Elle se dit, peut-être c'est pour faire son deuil, je ne sais pas. Moi, j'interprète ce qu'elle se dit dans sa tête. Hein? 4 jours, la décomposition est déjà avancée. Vous savez, à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait une croyance qui disait qu'au troisième, bien en fait, du premier au troisième jour, l'esprit du défunt restait près du corps. Après 3 jours, terminé. Il n'y a plus de chance. Fini, 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 fini. Et c'est pourquoi les 2 autres résurrections que Jésus avait faites, ce n'était pas aussi flagrant et aussi, on va dire, spectaculaire comme miracle que la résurrection de Lazare. Parce qu'il fallait que Jésus attende 4 jours avant d'arriver et dire, « Lazare, lève-toi. Crois et tu verras. » Au verset 40, c'est ça qu'il lui dit. Est-ce qu'on a besoin que Jésus nous répète ses promesses, nous autres aussi? Est-ce qu'on a besoin que Jésus vienne et affermisse notre foi? Jésus, il agit. Mais ce n'est pas toujours évident. Ils l'ont connu, là, de leurs yeux, vu Marie et Marthe, là. Pas nous autres. On le connaît, là, on veut, on croit en sa vérité. Fait que ça se peut que tu doutes, toi aussi, hein? Ça se peut très, très, très bien, puis... Jésus, il n'aura pas tapé sur les doigts parce qu'ils ont douté, mais il leur a rappelé les promesses importantes. Crois et tu verras. Au verset 44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » C'est la foi qui saisit l'invisible. Dieu, il est maître de ce qui se passe, et il est maître de la manière et du moment sur comment ça va se passer. Il nous suffit de croire en sa toute-puissance. Et avec notre foi, non pas avec nos yeux. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu sur une consolation que tu demandes à Dieu. Si tu crois, tu verras la restauration de ta situation dans son plan, mais tu la verras. Si tu crois, tu verras une relation, un pardon rétabli. Si tu crois, tu verras ton couple rétabli. Si tu crois, tu verras l'acceptation d'une situation qui est tellement difficile, au-delà de toutes tes forces. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas mes délais. La gloire de Dieu, ce n'est pas ce que moi, je veux nécessairement. La gloire de Dieu, c'est sa gloire. C'est son plan à lui. Mais il nous dit, si tu crois, tu verras. Tu verras au-delà de tout ce que tu penses que tu as besoin. Oh oui, on le sait donc ce qu'on a besoin, hein? Ben non. Je ne veux pas être là. Plein de choses ne seraient pas passées dans ma vie si je n'avais pas vécu ces 3 deuils-là. Tellement de choses que je ne serais probablement pas mariée à cet homme merveilleux qui n'est plus assis là. J'aurais probablement pas, on n'aurait pas nos 2 belles filles, on n'aurait pas la situation de vie qu'on vit, je ne serais pas devant vous. C'est son plan, lui. On ne le comprend pas toujours, mais lui, il nous comprend. C'est lui qui est la résurrection et la vie. Hein? Et ce matin, je vous encourage juste à vous agenouiller devant Dieu. Pas nécessairement parce que tu es triste. Ça se peut que ça soit complètement d'autre chose que tu vis. On doit lui demander de nous consoler, d'amener ses promesses à la vie. Il veut qu'on lui donne nos états d'âme. Il veut qu'on lui adresse ce qu'on aimerait. Le psalmiste, vraiment, c'est contre toute attente hein, qu'un auteur comme ça ait mis sur papier à cette époque-là comment est-ce que c'était difficile pour lui de vivre ce qu'il vivait. C'était tellement avec authenticité et profondeur de mettre son état d'âme sur papier. Mais il y avait, on en ressort tellement, tellement en regardant comment est-ce que cet auteur-là peut avoir dit des choses à Dieu et lui avoir demandé sa consolation, mais surtout d'avoir vu comment est-ce qu'il le fortifie à travers ça. Regardons pour terminer le psaume 102. C'est la prière d'un affligé lorsque, près de défaillir, il répand sa plainte devant l'Éternel. Écoute ma prière, Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi de me répondre. C'est tout ça qu'on peut vivre à un moment ou à un autre. Il y a juste Dieu qui va nous fortifier dans cette situation-là. Il agit. Et ayez confiance sur votre situation. Parce que ça, c'est la vérité. C'est Jésus. Il veut juste nous rappeler tout le temps qu'il est à nos côtés. Puis que si on a besoin de sa consolation, il veut nous entendre. Il veut savoir ce qu'on vit. Puis il faut lui faire confiance que ce plan-là qu'il va avoir pour nous va être le bon pour nous. Il faut se ramener à cette confiance-là, donc de lui demander de nous affermir dans notre foi. N'oublions pas que c'est Dieu qui sait ce qu'il faut, malgré tous les bons arguments qu'on peut avoir. On va aller vers un chant qui, ce matin, n'avait pas du tout été discuté entre Marie-Hélène et moi. Puis moi, ça m'a vraiment fortifiée avant ce message-là, de savoir que Dieu avait mis à cœur de chanter le Dieu victoire, la deuil, du deuil à la victoire. Parce que c'est vrai que dans le deuil, on a la victoire parce que Jésus a eu la victoire avant pour nous. Puis qu'on l'a encore aujourd'hui. Puis qu'on va l'avoir jusqu'à l'éternité. Alors, prenons le temps juste de s'adresser à Dieu avec ce chant.